qui m'intrigue par rapport au territoire sur lequel je travaille,
qui est la région de Roussillon, le département de l'Hérault et la ville de Montpellier, l'agglomération de Montpellier, et peut-être plus généralement la question des métropoles régionales. Donc cette formulation, le devenir banlieue, effectivement, m'intrigue du point de vue effectivement de la conception, parce que de l'image cognitive qu'on se forme des territoires. Deuxième aspect du titre du séminaire, donc mener l'enquête sur un territoire. Et là, il y a ces deux questions. Sur quel plan on se saisit du territoire? Donc effectivement, je crois qu'il y a plusieurs plans, et j'essaierai de les indiquer, à partir duquel on peut se saisir du territoire. Et selon effectivement le plan à partir duquel on réfléchit le territoire, ça ouvre effectivement des questions différentes concernant mener l'enquête, donc concernant les sciences sociales. Et si je radicalise mon propos en fin d'intervention, ce sera peut-être pour dire qu'effectivement, ça concerne pas si directement que ça les sciences sociales, mais qu'effectivement, il faut peut-être franchir un cap et aller un petit peu au-delà même de la question des sciences sociales. Donc sur la question du devenir banlieue, comme image contrastée par rapport effectivement au territoire métropolitain que je peux connaître en tant que métropole régionale. Si on prend l'exemple de Montpellier, il est intéressant, parce que, à l'inverse de ce que tu nous décrivais, on a là un territoire qui n'a pas besoin de déconstruire un passé. C'est-à-dire que le passé de la ville et du département est un passé qui l'affecte d'une manière seconde, ce qui veut pas dire secondaire, mais seconde, qui est l'histoire de la viticulture, qui est une histoire passionnante, qui reste passionnante aujourd'hui, qui est dans une filiation de syndicalisme agricole de gauche, etc., voire d'extrême gauche, mais effectivement qui affecte d'une manière seconde la question, effectivement, de la métropole régionale et de son développement. Donc, depuis 30 ans, donc c'est déjà une histoire assez conséquente, on voit sur ce territoire, me semble-t-il, émerger une forme de gouvernement local qui a une double caractéristique, à la fois de développer une forme d'activisme de politique publique, sans avoir besoin nécessairement de beaucoup déconstruire de l'interventionnisme étatique classique, peut-être relativement moins présent sur ce territoire-là que sur d'autres, par l'absence de grandes entreprises fordistes, par l'absence de grandes structurations territoriales fordistes. On était dans une ville raccrochée à sa viticulture. J'ouvre une parenthèse, même la question des ports, il y a sept, mais sept reste là aussi une question seconde par rapport à l'histoire de cette région. Donc l'émergence d'une forme de gouvernement local avec une double dimension, à la fois un activisme de politique publique, et ça je vais m'y arrêter, ça va être la tonalité de mon intervention, et des réémergences continues de formes de souveraineté dans leurs aspects les plus caricaturaux et dans les aspects les plus autoritaires. Et on a là un modèle qui fonctionne dans cette dissociation complémentarité en continu, avec une forme de renforcement réciproque des logiques, pour le dire vite, de gouvernance inhérentes à la politique publique et des formes de souveraineté extrêmement classiques, voire extrêmement autoritaire, voire extrêmement personnalisé. Et donc cet effet de renforcement réciproque provoque un effet d'entraînement politique sur le territoire, donc à l'échelle effectivement des 30 années qu'on a vécues. Il me semble que ce modèle de développement territorial, il est caricatural, entre guillemets, sur Montpellier par l'absence de déconstruction nécessaire, mais effectivement, il est après, je crois, repérable à l'échelle de nombreuses autres métropoles. Alors, si je donne quelques exemples de caractérisation de ce modèle de développement territorial, il y a effectivement cet activisme de la politique publique, en particulier concernant l'attractivité du territoire, qui n'est pas simplement une question d'image, je crois que c'est un renvoi un petit peu classique, c'est une question d'image, mais lorsque la ville investit par exemple fortement sur les congrès, en particulier les congrès médicaux, c'est qu'à travers effectivement l'investissement dans des congrès, il y a un effet d'image, il y a un effet de tourisme culturel et d'achat de nuitées, etc. Mais il y a effectivement un substrat de coopération potentielle avec effectivement le maillage des équipes et des entreprises liées au médical sur la ville, puisque la ville en a fait un de ses points, un de ses axes de développement. Donc effectivement, ces politiques publiques d'attractivité du territoire sont des politiques d'image, mais au-delà, je crois qu'elles constituent des substrats, effectivement, partir duquel des coopérations sont rendues possibles, des équipes locales se confrontent à l'occasion de ces colloques avec effectivement des équipes européennes, mondiales, etc. Et que je crois qu'il y a un processus conséquent. Donc, un activisme de politique publique sur ce terrain-là, sur la question de l'attractivité des territoires, qui passe aussi par de la politique foncière, etc. Je ne raconte pas, je crois que c'est d'ordre un petit peu de l'évidence. Un activisme de politique publique, du point de vue de ce que je caractériserais comme de la maintenance et de la reproduction matérielle et symbolique des formes de vie. Et derrière cette formulation un peu grotesque, il y a effectivement l'ensemble des activités culturelles, artistiques, éducatives, etc., etc., qui sont extrêmement investies et extrêmement présentes sur ces territoires-là. Et ça nous renvoie à quelque chose, bien évidemment, du point de vue de la force de travail qui est sollicitée par ces territoires métropolitains. Donc on a une politique publique là qui sollicite là une véritable multitude en tant que force de travail. Si on se met à additionner tous ces travailleurs du soin, de l'accompagnement, de l'insertion, de l'éducation, de la culture et de l'artistique. Et je les ajoute véritablement sans aucune hésitation, vu la place des festivals, la consommation culturelle, etc. Donc, cette logique d'attractivité, cette logique de maintenance et de reproduction des formes de vie, et puis un activisme de politique publique en matière, je crois, directement de gestion de la force de travail. Je crois que quand on fait converger, comme peut être en capacité de le faire une municipalité, l'ensemble des éléments de gestion de la force de travail issus des politiques d'insertion, des politiques de l'emploi, des politiques de la formation, lorsqu'on tente de les coordonner à l'échelle d'une maison de l'emploi, etc., on a un outil, effectivement, de gestion d'une force de travail extrêmement éparpillée, extrêmement diverse sur ces territoires-là. Et là aussi, il me semble qu'on a une concordance entre cette conception de la politique publique et la nature même de la force de travail présente sur ce territoire, qui se caractérise plutôt par du maillage de petites entreprises, etc., etc. Donc on a là, je crois, trois grands axes de développement de cette politique publique. C'est une des premières caractéristiques. Une deuxième caractéristique, la première, c'est cette forme de gouvernement local qui émerge. Deuxième caractéristique, c'est cette politique publique. Et puis, troisième caractéristique, un modèle de développement urbain qui intègre de manière très diffuse sa propre précarité et sa propre paupérisation. Alors, je vais donner les chiffres, parce qu'il me semble que par rapport à l'image véhiculée par Montpellier, à un moment donné, il faut disposer ces chiffres, même si les indicateurs sont très englobants. Il y a un indicateur qui nous est fourni par l'INSEE, je vous le donne, c'est le nombre d'allocataires du RMI pour 1000 personnes adultes. En France métropolitaine, 30,9, département de l'Hérault, 57,3, et pour mon voisin, Seine-Saint-Denis, 56. Voilà. Donc, il y a plus d'allocataires du RMI sur Montpellier, l'Hérault, etc., qui peut y en avoir, effectivement, dans une banlieue parisienne.
Parce qu'ils ont des papiers chez toi.
Pardon ?
Parce qu'ils ont des papiers.
Parce qu'ils ont des papiers. Non, mais ce sont des variables. J'y reviendrai, oui. Oui, oui. Taux de chômage, donc au sens du BIT, les données de 2004, en France métropolitaine, on était à 10, département de l'Hérault, 14,5, Seine-Saint-Denis, 14. Dernier indicateur, là aussi très, très grossier, mais qui donne un signe du point de vue de la paupérisation relative, par des ménages imposés, par des ménages qui payent des impôts. En France métropolitaine, 60%, département de l'Hérault, 52%, et puis Seine-Saint-Denis, 60% aussi. C'est-à-dire que ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que dans ce modèle de développement urbain lié à ces métropoles régionales, on a effectivement des modalités de précarité et de paupérisation qui sont inclus dans le modèle, qu'on n'identifie pas nécessairement en termes de territoire. Bien sûr, il y a des territoires de pauvreté, à Montpellier, le quartier des Petits Bars, etc. Mais là aussi, ça me semble second par rapport à l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire, effectivement, cette paupérisation et cette précarité est inclue dans le modèle de développement. Alors, on a quelques pistes de compréhension. L'une d'entre elles, effectivement, est la question de l'entrée en mobilité, ou une formulation un peu facile, chaque fois qu'un emploi occupé, il y a un chômeur de plus, par l'entrée en mobilité des couples, des familles. Et donc, rarement, l'entrée en mobilité permet aux deux membres du couple d'occuper un emploi. Donc, on a des variables de ce type-là. On a des variables liées à la nature même de l'activité, ce tissu de petite entreprise, cette force de travail assez mobile sur le territoire. Il me semble qu'on a aussi des variables liées à ce que Tarius appelle la mondialisation par le bas, qui à la fois est fortement productive en termes de marchand, en termes de commercialisation et dans des formes de paupérisation tout à fait réelles, etc. Donc on peut trouver des éléments de compréhension. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est de souligner le fait que ce mode de précarisation est inclus dans le type de développement. Et depuis 30 ans, effectivement, la situation change peu. Donc, voilà de quel type de territoire. Quel type de territoire